Décryptage. Clotilde Dumay.
Jusqu'à présent, lorsqu'on parlait de voitures électriques, on pensait souvent à Tesla. Mais ces derniers temps, l'entreprise américaine se fait de plus en plus concurrencée par les marques chinoises, à commencer par BYD. Elles sont présentes en nombre au salon automobile de Pékin qui vient de débuter. Une façon pour la Chine d'asseoir davantage encore sa prédominance sur le marché des voitures électriques. Plus d'une sur deux vendues dans le monde est de fabrication chinoise. Alors comment Pékin a réussi à conquérir ce secteur? Le reste du monde pourra-t-il rester dans la course? On en parle dans ce décryptage. Et nous sommes ce soir avec Clément Dupont-Roc, bonsoir.
Bonsoir Clotilde.
Spécialiste du secteur de l'automobile et des problématiques énergétiques, directeur stratégique et associé de la société de conseil Seaways. Alors d'abord, Clément, est-ce que le marché de l'électrique est toujours aussi prometteur? Parce que d'un côté, on a un petit peu un tassement des ventes en ce début d'année en Europe. Et puis en même temps, l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit tout de même une hausse des ventes de voitures électriques de 20% en 2024.
Alors ça dépend des endroits en fait. Effectivement, en Chine, il n'y a pas de problème. Ça continue d'augmenter rapidement, plus vite que prévu. Chaque année, on bat les records. Et puis en Europe, ça se tasse un peu effectivement en ce début d'année. Aux États-Unis, ça a un peu de mal à décoller. Mais au total, le poids de la Chine étant très important, le marché mondial continue d'augmenter probablement assez fortement, d'une vingtaine de pourcents en 2024.
Alors effectivement, la Chine dans ce marché, elle prend de plus en plus d'avance. Je le disais, elle produit plus de la moitié des voitures électriques vendues dans le monde désormais. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là?
Alors ça fait longtemps qu'ils y travaillent, puis de manière coordonnée en plus, puisque les premiers plans quinquennaux du Parti communiste chinois qui parlent de véhicules électriques, c'est le début des années 2000. Et ils ont véritablement mis en place toute une stratégie nationale qui va de l'amont de la filière jusqu'à l'aval, le recyclage de la batterie, pour devenir effectivement les rois de la voiture électrique à cet horizon-ci, et ils ont magnifiquement réussi.
L'image un petit peu de cette évolution, est-ce que ça peut être la marque BYD qui produisait à la base des produits un peu pour téléphone et puis qui est passée aux batteries et puis maintenant qui construit des voitures?
Oui, alors au moment où le gouvernement chinois décide de faire de la Chine le place to be du véhicule électrique, BYD n'est pas vraiment encore dans la course. Mais en fait, le gouvernement chinois met en place une espèce de darwinisme régulé où il subventionne massivement tout en laissant la compétition jouer et puis sélectionner les meilleurs. Et comme ça, se mettent à émerger des champions tels que BYD, mais également tels que SAIC, avec sa filiale MG notamment, qui réussit très bien en Europe. Chery, Geely, voilà, quelques grands champions qui sont appelés à passer du statut de champion chinois à champion mondial, clairement.
Et le gouvernement chinois fait ce choix au début des années 2000, alors que pourtant la Chine ne domine pas vraiment le secteur des véhicules thermiques.
Justement. Ils se disent, c'est trop compliqué de rattraper notre retard. On n'y arrivera pas. Les Européens, notamment les Allemands, ont trop d'avance. Le moteur thermique est une pièce hyper complexe. L'industrie, notamment européenne, mais également américaine, a 100 ans d'avance sur nous. On va passer une génération, on va sauter une étape et on va se préparer directement à être les champions de l'électrique.
Alors l'un des nerfs de la guerre, c'est quand même la production des batteries, notamment pour les voitures électriques. Sur ce sujet-là, l'industrie européenne est à la traîne, c'est ce que dit la Cour des comptes européenne dans un rapport qui a été publié cette semaine.
Alors elle est à la traîne, tout le monde est à la traîne par rapport aux Chinois de toute façon, mais elle travaille très dur pour ne plus l'être. Puisque les projets de Gigafactory, donc ces méga-usines qui ont vocation à fabriquer des batteries, fleurissent partout sur le continent européen. Et même si aujourd'hui, on a besoin de plus de batteries en Europe que ce qu'on est capable de produire, on espère que d'ici quelques années, on arrivera à peu près à être autosuffisant en termes de batteries. En tout cas, c'est le plan de la Commission européenne.
Il y a un projet, effectivement, notamment en France, dans l'Allier, sur une mine de lithium.
Alors ça, c'est encore autre chose. C'est pour extraire le lithium qui, par la suite, va permettre de faire des cellules qui vont faire des batteries. Mais vous avez raison, c'est un enjeu de maîtriser toute la filière. En fait, de l'extraction des matières premières, leur raffinage, la fabrication des cellules, celle des batteries, puis ensuite le recyclage des batteries, super important pour, à la fin, ne plus avoir à extraire des matières premières neuves, puisqu'on n'a plus qu'à gérer le stock, en fait, en circulaire, des matières premières qui sont déjà dans les batteries.
Alors, concernant cette fois-ci, non plus forcément la production, mais la vente des véhicules électriques, là aussi, la Chine est très en avance, hein, puisque selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, un véhicule sur trois qui roule en Chine devrait être électrique en 2030. Vous parliez tout à l'heure effectivement des subventions. Comment la Chine a réussi à en arriver là, à ce niveau-là, des ventes ?
Alors, effectivement, avec cette volonté politique qui s'est effectivement fait beaucoup à coups de milliards de yuan, de centaines de milliards de yuan de subventions, on est arrivé à une situation avec des surcapacités en termes de production de voitures et de production de batteries monumentales. En Chine, la capacité de production de batteries est plusieurs fois supérieure à la demande, ce qui a provoqué un effondrement des prix et une guerre des prix aujourd'hui sur les véhicules électriques en Chine, qui fait que...
Ça coûte combien un véhicule électrique en Chine aujourd'hui, par exemple ?
Aujourd'hui, on peut avoir un très beau véhicule électrique en Chine pour 20 000 euros, alors qu'il en coûterait 45 000 en Europe. Il y a moins de taxes également. Voilà, donc il y a tout un système qui est mis en place pour que le véhicule électrique ne coûte pas cher. Et donc, ma foi, les gens se jettent dessus.
Il y a aussi, effectivement, je lisais des plaques d'immatriculation qui étaient offertes gratuitement aux nouveaux acheteurs. Des incitations pour effectivement, les particuliers, quoi.
Alors, il y a certaines grandes villes, notamment Pékin, Shanghai, Canton, où, en fait, depuis une dizaine d'années, on n'a pas le droit d'acheter des voitures comme ça. Il faut soit acheter sa plaque d'immatriculation, il y en a un quota limité par année, soit carrément, c'est un tirage au sort. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont le droit d'avoir une nouvelle voiture dans l'année, sauf pour les véhicules électriques. Et donc, évidemment, si vous ne voulez pas avoir moins d'une chance sur 100 d'avoir une voiture, vous allez sur un véhicule électrique.
Alors, les prix des voitures chinoises sont si bas qu'ils étonnent même l'Union européenne. La Commission européenne a lancé à l'automne dernier une enquête sur d'éventuelles subventions publiques qui seraient accordées aux constructeurs chinois uniquement et qui pourraient donc entraîner une concurrence déloyale. C'est possible, selon vous ?
Alors, le fait que les constructeurs chinois soient ultra subventionnés par leur gouvernement central, régional, local, municipal, il n'y a absolument aucun doute. Mais c'est-à-dire qu'en Europe et aux États-Unis aussi, c'est juste que du côté chinois, c'est probablement d'un ordre de grandeur supérieur. Et que la Commission européenne veut, à tort ou à raison, protéger son industrie locale.
Elle envisage, en tout cas, elle réfléchit en réponse à mettre en place une taxe spéciale sur les véhicules électriques chinois dès cet été, ça pourrait être. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, Clément Dupont-Roch ?
Ben, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut effectivement ne pas tuer l'industrie européenne du véhicule électrique et lui donner le temps, en fait, de rattraper son retard par rapport à la Chine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Aujourd'hui, les constructeurs européens, ils pédalent très 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 vite pour aller en Chine, apprendre et puis rattraper leur retard. Il leur faut probablement 4-5 ans. Si on ne veut pas que les constructeurs chinois viennent leur tailler des croupières pendant les 4-5 ans que ça va prendre, il faut gagner un peu de temps. Et pour ça, aller contrer leur avantage prix très fort par quelques droits de douane plus élevés, par un bonus écologique différencié, comme on l'a vu en France, hein, qui privilégie les voitures européennes aux voitures chinoises, donc qui attribue un bonus uniquement aux voitures européennes, c'est une solution temporaire intéressante.
C'est temporaire parce que c'est vrai que BYD quand même compte s'installer notamment en Hongrie, donc on sait que de toute façon, ce genre de solution sera contournée in fine.
Alors oui, mais s'il s'installe en Hongrie, il a les coûts de production d'un Européen, donc il n'est plus 30% moins cher comme quand il était en Chine. Et donc à ce moment-là, c'est plus du tout la même équation et on va dire on est un peu à armes égales.
Alors côté États-Unis, là on essaie de garder la Chine un petit peu éloignée, avec notamment l'Inflation Reduction Act, hein, ce grand plan de réforme écologique et sociale, est-ce que ça fonctionne ?
Oui, alors ça fonctionne. C'est le modèle, en fait, hein, de politique industrielle protectionniste qu'aimerait bien émuler l'Europe, mais c'est plus compliqué. Alors, les Américains, ils ont l'avantage d'être un seul pays, donc c'est plus facile. Oui. Et puis, d'avoir clairement défini la Chine comme étant leur rival stratégique. Et donc, ils ne s'embêtent pas. Ils ont mis 25% de droits de douane sur les véhicules chinois. Et puis, ils interdisent... pour avoir accès aux subventions à l'achat de véhicules électriques, ils interdisent que dans le véhicule puisse être aucune pièce qui puisse venir de 4 pays qui ont été désignés comme des, pas des ennemis de la nation, mais des pays, on va dire, où c'est compliqué, et qui sont l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, des pays pas très fréquentables, et la Chine. voilà, au milieu de ces trois autres pays, qui est clairement une politique protectionniste, sans, voilà, sans la vergogne que peuvent avoir les Européens.
Alors, dans l'Union européenne, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a tendance à réduire les aides à l'achat des voitures électriques. C'est le cas, ça a été le cas notamment récemment en Allemagne.
Oui, tout à fait. Le gouvernement allemand a, de manière très brutale, sans trop prévenir à l'avance, complètement arrêté les subventions à l'achat qui étaient d'environ 6 000 euros en décembre 2023. Et de fait, la part de marché du véhicule électrique en Allemagne, qui était d'environ 18%, est retombée à 11 ou 12%. Et ça a fait une forte secousse sur le marché électrique européen, clairement.
En France aussi, vous évoquiez tout à l'heure le bonus écologique. Il a quand même été un petit peu raboté là, ces derniers temps. Encore 1 000 euros de moins pour, il me semble, la moitié des Français. Là aussi, c'est pas forcément un bon signal.
Alors, il a été effectivement raboté pour les ménages. Il a surtout été complètement supprimé pour les entreprises. Ça, c'est plus important. Je ne sais pas si ce n'est pas un mauvais signal, parce qu'en parallèle, on a mis en place quand même le leasing social, qui est une offre plus ciblée sur les classes moyennes.
Et alors, le leasing social, pour expliquer un petit peu ce que c'est, hein, ça permet donc à des particuliers qui ont un revenu modeste de louer une voiture électrique pour 100 euros maximum par mois. Hein. 50 000 Français ont fait la demande. Hein. Donc, d'ailleurs, on a arrêté ce système-là, on l'a fermé pour l'année parce qu'il y avait trop de demandes.
C'est ça, l'État avait prévu d'avoir 20 000 dossiers en un an, et ils ont eu 90 000, dont 50 000 acceptables en 6 semaines. Donc ils ont vite fermé, mais ça montre bien en fait l'appétence qu'ont les classes moyennes une fois que le problème financier est réglé, puisque ces voitures étaient subventionnées par l'État. Les gens en fait n'ont pas de problème en fait avec le véhicule électrique.
Alors sur le prix aussi, les constructeurs, là pour parler des constructeurs européens, peut-être ont des moyens d'action, Clément Dupont-Roch, qu'est-ce qu'ils pourraient faire face à des voitures chinoises qui semblent totalement imbattables niveau prix?
Alors, c'est compliqué, bien sûr, parce qu'on n'a pas le même niveau de subvention, on n'a pas les mêmes coûts d'électricité, on n'a pas le même coût du travail. Aller faire une voiture en Europe qui a le même coût de production qu'une voiture en Chine, en vérité, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'abord se protéger par les politiques protectionnistes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est également d'aller proposer des véhicules que ne proposent pas forcément les Chinois, notamment des véhicules de type citadine, hein, du type Clio ou Captur. Voilà.
C'est ce que compte faire donc Renault, par exemple, avec la R5, Citroën aussi.
Ouais, exactement. Les constructeurs européens ont commencé par les gros segments, plutôt les véhicules de type Mégane ou bien Scénic, parce que c'était les véhicules les plus rentables, donc des véhicules plutôt entre 35 000 et 45 000 euros. Et puis maintenant, ils vont aller aborder le segment des petites voitures qui sont hyper importantes sur le marché, notamment français, puisqu'elles représentent environ 40% du marché français. Et là, aller essayer de décrocher des prix autour de 25 000 euros, ce qui est quand même beaucoup plus abordable pour le commun des acheteurs de véhicules neufs.
Dans cette course au prix, même Tesla, l'entreprise américaine dont on parle régulièrement, a quand même un peu de mal à suivre. Cette semaine, son bénéfice net a chuté de 55% au premier trimestre 2024. Et pour riposter, Tesla veut d'ailleurs aussi accélérer la production d'une voiture qui coûterait là aussi moins cher.
Oui. Alors, on ne sait pas bien ce qui se passe chez Tesla, puisqu'il y a un mois, il y a des fuites qui sont sorties qui disaient qu'ils avaient justement abandonné le projet de ce modèle 2, hein, ce qu'ils appellent le modèle 2, donc c'est la voiture pas chère à 25 000 dollars. Là, Elon Musk vient de faire une conférence de presse disant que, mais si, bien sûr, non seulement on va le faire, mais on avait prévu de le faire en 2025 et on va accélérer ça, on va le faire avant fin 2024. Bon, comme ça fait 10 ans qu'il raconte des bobards, finalement, on ne sait pas bien ce qui va se passer. Mais évidemment, Tesla découvre la vraie vie après avoir passé 3-4 ans à avoir de l'avance sur les autres et à être sans trop de concurrence, à jouir de son aura nouvelle, en fait, de nouvelles marques. Maintenant, il découvre la vraie vie de ce que c'est qu'un constructeur avec un marché qui fluctue, avec des concurrents. Et puis, il rentre un peu dans le rang, quoi.
Du coup, à l'arrivée, est-ce qu'on peut se dire que, après tout ce qu'on vient de se dire, là quand même, on a un peu la sensation que voilà, la vague chinoise va un peu déferler inexorablement sur le monde en ce qui concerne les véhicules électriques. Est-ce qu'il reste quand même encore des places pour d'autres pays, d'autres marchés ?
Ouais, bien sûr. Alors, les constructeurs européens ne se laissent pas faire les bras ballants. Ils sont tous en train d'aller en Chine, d'apprendre, de voir ce qui se passe, d'essayer de refaire la même chose, de répliquer les méthodes d'ingénierie qui permettent de développer les véhicules plus rapidement, de voir comment on fait, comment on intègre des batteries, des moteurs électriques dans des véhicules de manière plus optimisée. Et d'ici quelques années, il n'y aura pas de souci. Donc, bien sûr, la Chine est appelée à produire quelques champions mondiaux de la même manière que Volkswagen.
Mais pour vous, il n'y aura pas une déferlante forcément des marques chinoises, par exemple en France, dans quelques années, dans nos rues ?
Si on se protège un minimum, non. On va dire qu'une dizaine de pourcents de parts de marché, ça devrait être bien. C'est-à-dire comme les Coréens ou comme les Japonais, par exemple.
Il y a aussi un secteur qui n'a pas forcément été très, très investi pour le moment, c'est celui des véhicules électriques des entreprises, où là peut-être aussi les marques françaises pourraient se démarquer.
Alors, effectivement, l'actualité sur ce sujet, c'est la proposition de la loi Adam, qui est donc renforce et sévérise les quotas d'achat de véhicules électriques, de renouvellement de flotte par des véhicules électriques. Et cette loi, si elle est adoptée, elle ferait effectivement des flottes qui, pour l'instant, qui représentent la moitié du marché du véhicule neuf, faut pas les négliger, qui pourraient donc les faire rattraper un peu leur retard, parce que pour l'instant, ces flottes sont un peu à la traîne. Elles achètent moins en proportion de véhicules électriques que les ménages. Si elles y étaient forcées, ça permettrait quand même de bien faire remonter le marché du neuf et surtout de proposer ensuite des véhicules d'occasion sur le marché électrique en sortie de ces flottes-là. Donc des véhicules d'occasion.
Parce que pour l'instant, le marché d'occasion est assez.
Il est faible parce que pour qu'il y ait une voiture d'occasion, il faut qu'il y ait une voiture neuve 4-5 ans avant. Puis 4-5 ans avant, il n'y avait pas encore de voiture électrique neuve. Donc aller mettre à disposition des véhicules électriques d'occasion de 10 000, 15 000 euros à disposition de ménages qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer des véhicules à 35 000 euros, c'est une très bonne manière d'aller diffuser le véhicule électrique dans la société.
Est-ce qu'on peut aussi imaginer que l'Europe, on le sait, elle a quand même une technique de construction en ce qui concerne les voitures thermiques avec des constructeurs quand même assez historiques. Est-ce qu'on pourrait se dire aussi que finalement, ils font un peu comme la Chine a fait avec les voitures thermiques, on zappe l'électrique, on passe directement à d'autres énergies comme, l'hydrogène par exemple ?
Alors, pour l'instant, il n'est pas envisagé qu'il y ait une technologie au-delà de l'électrique. L'hydrogène n'est pas sérieusement envisagé pour les véhicules particuliers. Peut-être pour les camionnettes et surtout probablement un peu pour les camions, mais pas pour les véhicules particuliers. Probablement, la bataille va se jouer sur les technologies de batterie elles-mêmes pour arriver à faire la batterie la plus compacte, la plus dense en énergie et la moins coûteuse.
À quelques semaines des élections européennes, est-ce que, selon vous, le résultat de ce scrutin pourrait justement avoir aussi des incidences sur le marché des voitures électriques et ce que va faire l'Europe dans les années à venir ?
Alors, pour l'instant, l'Europe a prévu de sortir les véhicules thermiques, d'interdire les ventes de véhicules thermiques à partir de 2035. C'est ça la régulation. Évidemment, il y a un scénario d'une vague populiste qui déferlerait sur l'Europe et qui mettrait en pause cette régulation, pourrait infléchir cette trajectoire. Néanmoins, vu les investissements, les dizaines, les centaines de milliards d'euros qu'ont mis toutes les entreprises européennes dans l'électrique récemment, il n'est pas question de revenir en arrière sans tuer entièrement tous les constructeurs européens. Donc même si on a une vague populiste... et qu'on essaye de geler un petit peu cette transition écologique, probablement en 2035, on aura quand même 60-70% de véhicules électriques et le reste de véhicules très hybridés ou avec des e-fuel, des e-carburants, des choses comme ça. Donc il n'est pas question de revenir au thermique du tout.
Eh bien, merci beaucoup Clément Dupont-Roc d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste du secteur de l'automobile et des problématiques énergétiques, directeur stratégique et associé de la société de conseil Seaways. Et je rappelle aussi que Décryptage, c'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet et l'application de RFI.
Merci.